marque-page.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Le marque-page d'aujourd'hui sera consacré à un roman de l'un des plus illustres écrivains français du 19e siècle, Victor Hugo. Ce roman est le dernier qu'il a publié. Il s'intitule 93. Le titre évoque l'année 1793. Quelle particularité cette année a-t-elle ? En 1793, la France est en pleine révolution. La révolution, engagée 2 ans plus tôt, en 1789, a entraîné la chute de l'Ancien Régime et la mise en œuvre de réformes majeures qui posent de nouveaux principes, dont la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Une fois les principes généraux posés, de profondes divisions surgissent entre Girondins et Montagnards. Avec le Marais, les Girondins et les Montagnards désignent les 3 camps qui composent la Convention nationale. La Convention est l'équivalent de l'Assemblée. Elle exerce le pouvoir entre 1792 et 1795. Sans entrer dans le détail des positions tenues par chaque camp, les Girondins sont plus modérés que les Montagnards, qui préconisent une révolution radicale. Leur clivage porte notamment sur la poursuite de la guerre menée par la France contre la coalition de plusieurs royaumes voisins, le sort de Louis XVI et de sa famille et l'orientation des politiques économiques. En raison du contexte de guerre, une psychose de trahison contre-révolutionnaire se développe dans l'opinion. Aussi, les Montagnards s'imposent progressivement à la Convention. Et la Révolution se radicalise en 1793. Comment cette radicalisation se concrétise-t-elle ? Pour commencer, le roi Louis XVI est guillotiné en janvier. Ensuite, une levée en masse de 30 000 hommes est décrétée, afin de lutter contre les royaumes coalisés. Ces événements sont des événements déclencheurs à travers tout le pays d'émeutes et d'insurrections de paysans, déjà fragilisés par la pauvreté. Et ces événements donneront lieu à de véritables guerres civiles. Ces paysans sont connus sous le nom de Vendéens ou de Chouans. En outre, pour lutter contre les ennemis de l'intérieur, la Convention décide la création d'un tribunal révolutionnaire et d'un comité de salut public. Ces 2 organes deviendront les instruments de ce que les historiens appellent le régime de la terreur. Victor Hugo inscrit l'intrigue de son roman dans cette année 1793. Cette dernière marque un tournant dans la Révolution, car la jeune République française, pourtant légitime, voit alors se dresser contre elle une partie du peuple qu'elle représente et décide de le réprimer dans la violence. L'intrigue du roman s'ouvre sur un voyage en mer du marquis de Lantenac. Lantenac est un vieil aristocrate, opposé à la Révolution, fervent défenseur de la monarchie absolue et du clergé. Il arrive de l'île de Jersey et débarque en pleine nuit sur les côtes bretonnes. Son objectif est de rejoindre les paysans insurgés, les fameux Chouans, puis de les organiser en une armée royaliste structurée pour combattre les armées révolutionnaires. Peu après son débarquement, il découvre une affiche. Cette affiche le désigne comme un hors-la-loi et sa capture est mise à prix. Sur cette affiche, un détail l'interpelle. Elle est signée du nom de Gauvin. Gauvin est un jeune commandant en chef de l'armée républicaine. Et Lantenac le connaît très bien. À cet égard, Gauvin n'est autre que le neveu de Lantenac. Pour quelle raison l'aristocrate Gauvin est-il partisan de la Révolution ? Eh bien, à cause d'un troisième personnage, appelé Simourdin. Simourdin est un ancien prêtre. Gauvin le connaît depuis son plus jeune âge. En effet, Lantenac avait engagé Simourdin comme précepteur pour son neveu. Simourdin a sensibilisé Gauvin à la philosophie des Lumières. Lorsque la Révolution éclate, Simourdin prête serment à la Convention et Gauvin, épris des principes révolutionnaires, rejoint les rangs de l'armée républicaine. L'opposition idéologique entre ces 2 membres d'une même famille constitue un premier ressort de l'intrigue. Toutefois, elle est loin de s'y limiter, car la Révolution est beaucoup plus complexe qu'une simple opposition entre ses partisans et ceux de l'Ancien Régime. On l'a vu, Gauvin et son ancien précepteur Simourdin appartiennent au même camp. Or, il se trouve qu'ils ne partagent absolument pas la même conception de la République. Simourdin défend une République intransigeante avec la loi. Gauvin soutient quant à lui une république porteuse de valeurs universelles, plus forte que des principes juridiques définis. Il porte une attention toute particulière à la conscience humaine. Au cours de l'intrigue, leurs désaccords, a priori mineurs, s'amplifieront au gré des événements et constitueront un point de rupture entre les deux hommes. Si vous souhaitez lire ce roman, il est disponible dans les bibliothèques universitaires de Bordeaux. Il peut être emprunté à la Bibliothèque temporaire de lettres et sciences humaines, le temps des travaux à la BU centrale de Pessac, ou bien à la BU des sciences et techniques de Talence, située au niveau de l'arrêt tram B, Arts et Métiers. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Tout d'abord, vous avez peut-être lu le roman de Balzac, intitulé Les Chouans. J'ai d'ailleurs consacré un marque-page aux Chouans en février dernier. Si vous appréciez ce roman, vous apprécierez certainement 93. En effet, le contexte historique est exactement le même. Plus légèrement, si vous êtes comme moi une groupie du marquis de Montauran, l'un des personnages principaux du roman de Balzac, il y a fort à parier que vous vous prendrez de passion pour le formidable Gauvin. Pour ma part, je suis sous son charme depuis ma première lecture de 93 il y a 3 ans. À cet égard, Gauvin est un officier républicain formé sous l'Ancien Régime. Il va incorporer à l'action révolutionnaire autre chose que la violence pour la transcender. Il a une morale chevaleresque. Selon lui, la guerre n'est pas sans loi, la violence n'est pas sans limite et les fins politiques ne justifient pas tous les moyens. J'entends que pour la plupart d'entre vous, cet argument est fort peu convaincant. Mais rassurez-vous, il n'est pas le seul. Dans ce roman, Victor Hugo pose la question de la légitimité de la violence révolutionnaire, à travers la guerre civile entre Chouans et armée républicaine, mais aussi à travers les condamnations à mort prononcées par le tribunal révolutionnaire. Victor Hugo explore la thèse défendue que la Révolution devait nécessairement être violente pour pouvoir purger la France de l'Ancien Régime. Or, lorsque la Révolution devient trop violente, Victor Hugo se demande par quelle autre violence la Révolution pourrait être contrée. À travers Simourdin, Victor Hugo montre que le légalisme, c'est-à-dire l'intransigeance de la loi, quel que soit le contexte, peut devenir immoral et par là même défigurer la République et la Révolution. Au-delà des querelles idéologiques entre les trois personnages principaux, Victor Hugo met aussi en évidence la perception de la Révolution dans les milieux paysans. D'une certaine façon, ce milieu s'incarne à travers quatre personnages secondaires que je n'ai pas évoqués précédemment. Il s'agit de Michel Fléchard et de ses trois enfants. Michel Fléchard est une jeune paysanne dont le mari, un chouan, a été tué au cours d'une attaque de l'armée républicaine contre son village. Son village a été détruit. Depuis, elle erre dans la campagne avec ses trois enfants en bas âge. Au début du roman, elle rencontre un bataillon de soldats républicains qui l'interrogent. Les réponses de Michel Fléchard sont saisissantes. Elles témoignent du fait que Michel Fléchard, comme la plupart des paysans, est dépassé par les événements et qu'elle n'en saisit pas les enjeux. Les paysans sont ancrés dans un territoire plutôt que dans une idéologie politique. Lorsqu'on lui demande quelle est sa patrie, elle répond par le nom de son village. Ses réponses sont parfois contradictoires également. Par exemple, elle explique aux soldats que son père avait été mutilé par le seigneur de son village, puis leur indique qu'elle croit en son seigneur comme elle croit en Dieu et en son roi. D'une part, Michel Fléchard et ses enfants illustrent le traitement infantilisant que la monarchie a réservé à ses sujets pendant plusieurs siècles. En cela, on voit que Victor Hugo était un profond républicain. Mais d'autre part, il témoigne de la manipulation du peuple, par les chefs de file des camps républicains et révolutionnaires, et royalistes aussi. Ces derniers profitent de leur ignorance pour les instrumentaliser, à l'image des chouans manipulés par le camp royaliste. Michel Fléchard et ses enfants sont présents tout au long de l'intrigue. Je vous laisserai découvrir le rôle qu'ils joueront auprès de Lantenac, Simourdin et Gauvin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.